Afrique, les infos à Washington.
Avec vous, Henri Francisque, midi à Bamako, 13h à Kinshasa. Bienvenue à notre journal. On commence par la lutte contre les djihadistes en Afrique. Au Kenya, 3 enseignants ont été tués et un autre enlevé ce lundi dans l'est du pays par de présumés militaires islamistes Shebab Afidi et Al-Qaïda, qui ont aussi partiellement détruit un pylône de télécommunication et mis le feu à un poste de police. Depuis le début de l'année, les Shebab ont intensifié leurs attaques dans l'est du Kenya, à proximité de la frontière avec la Somalie, et la police kenyane est en état d'alerte maximum. Le 5 janvier, des combattants Shebab ont attaqué une base militaire américaine au Kenya, dans Lamu, dans le sud-est du pays, tuant 3 Américains, un militaire et 2 sous-traitants du Pentagone, et détruisant plusieurs avions. 2 jours plus tard, les islamistes ont tué 4 civils, dont un enfant, dans une école primaire à Sarito, à 25 km du camp de réfugiés de Dadaab, près de Garissa, dans l'est du Kenya. Violence dans le Sahel maintenant. Au Niger, un nouveau bilan de l'attaque du 9 janvier contre la position militaire de Chiné Godar près du Mali. On compte désormais 89 soldats tués au lieu des 25 annoncés précédemment suite à cette attaque, selon le gouvernement qui a décrété un deuil national de 3 jours. Le point avec notre correspondant Annie Amé Abdulrazak Idrissa.
Le gouvernement nigérien aura donc mis presque 48 heures pour confirmer une information qui a fait le tour de la toile depuis que les parents de victimes partis au carré des martyrs pour les obsèques des militaires décédés le 9 janvier dernier à Chiné Godar ont indiqué avoir dénombré 89 corps au lieu des 25 annoncés dans le premier bilan.
Après ratissage, le bilan se présente de la façon suivante. Côté ami, 89 morts. Côté ennemi, 77 morts. Cette douloureuse...
Le ministre porte-parole du gouvernement annonce également un deuil de 72 heures à compter de ce lundi, date prévue pour la rencontre entre le président Emmanuel Macron et les 5 chefs d'État du G5 Sahel dans la ville française de Pau, une rencontre sur la coopération militaire dans la lutte contre le terrorisme. Ici à Niamey, beaucoup de citoyens se demandent si après un tel drame, le président Issoufou doit se rendre à cette rencontre.
Que Dieu bénisse le Niger.
Abdulrazak Idrissa à Niamey pour VOA Afrique.
Sahel toujours, réunion donc aujourd'hui à Pau en France entre le président français Emmanuel Macron et ses homologues du G5 Sahel. À l'ordre du jour, entre autres sujets, la dégradation sécuritaire et la propagation djihadiste dans la région ainsi que la présence militaire française. Éric Manirakis a joint à Dakar l'analyste politique Ibrahima Khan.
Vous savez, il y a actuellement dans la région du Sahel, particulièrement au Mali et un peu même au Burkina, si on en juge par les propos des membres du gouvernement, un sentiment très profond que la France n'aide pas à lutter contre les djihadistes, que la France est en train de dérouler son propre agenda. Cette conférence est convoquée par la France pour procéder à des clarifications. Je pense que la première clarification qu'il faudra faire à cette réunion, c'est quel est le rôle de la France dans cette lutte. Est-ce aider les pays à vraiment réduire, parce que je pense que éradiquer le terrorisme dans la région est quelque chose de très difficile à l'heure actuelle et ça prendra énormément de temps, mais aider les pays à mieux s'organiser et à mieux défendre leur territoire contre les attaques djihadistes. Ça, c'est la première chose. Aider les pays à surtout protéger leur intégrité territoriale, préserver leur intégrité territoriale, parce que dans le cadre du Mali, le sentiment qui se dégage dans la population est que la France fait tout pour que les Touaregs aient un territoire. Et ça, il faut dissiper ces malentendus. La troisième chose, à mon avis, c'est que si on veut qu'il y ait une forte coordination entre la France, les Nations Unies et les pays qui subissent aujourd'hui ces actes terroristes, il faudrait que la France aussi donne des gages pour cette coopération, montrer par exemple que la CEDEAO est un acteur important, que la coopération avec l'Algérie est sur la table et qu'enfin l'Union africaine, qui est quand même un acteur très important, soit aussi impliquée.
Ibrahima Khan, analyste politique, joint à Dakar au Sénégal.
Vous êtes à l'écoute de VOA Afrique.
Violence dans le Sahel toujours. Dans le nord-est du Mali, deux organisations armées ont signé dimanche un accord pour tenter de restaurer la sécurité dans la ville de Ménaka et ses environs. Ménaka est devenu un foyer de violence meurtrière en tout genre. Eric Manirakiza.
La coordination des mouvements de la Zawad Sema et la plateforme des mouvements du 14 juin 2014 d'Alger conviennent de la cessation totale et immédiate de tout acte hostile et de la protection des personnes et de leurs biens dans les zones sous leur contrôle. Elles s'interdisent toute forme de violence et d'extorsion de biens en raison de l'appartenance politique ou ethnique et s'entendent pour contrôler la circulation des armes, instaurer des patrouilles mixtes et créer ou rouvrir des postes de contrôle. Elles conviennent de traduire en justice les criminels, de remettre ceux issus de leur rang et de mettre en place un organisme de justice incluant les mécanismes traditionnels de gestion des conflits et s'engage à œuvrer au retour des nombreuses personnes déplacées par le conflit et à celui des ONG dont elles assureraient la sécurité. La CMA est une alliance à dominante Touareg d'anciens groupes rebelles. La plateforme est composée de groupes armés pro-gouvernementaux. Toutes deux sont signataires de l'accord de paix d'Alger de 2015. Ménaka et sa région font partie de ces vastes zones qui échappent largement ou entièrement au contrôle d'un pouvoir central affaibli dans un pays en proie à la guerre depuis 2012. Les violences y sont multiformes, djihadistes, intercommunautaires ou crapuleuses, auxquelles s'ajoutent les rivalités entre groupes armés. Malgré la crise humanitaire qui sévit dans le pays, les ONG y ont une nouvelle fois cessé leurs activités en décembre à la suite d'un énième braquage.
En Guinée, le gouvernement a adressé une sévère mise en garde à l'opposition qui appelle à une mobilisation massive à partir d'aujourd'hui pour faire barrage au projet prêté au président Alpha Condé de briguer un troisième mandat fin 2020. Les précisions d'Irénée Herman Ungo.
Le Front National de Défense de la Constitution FNDC, le collectif de partis, de syndicats et de membres de la société civile qui mène la protestation, a appelé à partir d'aujourd'hui à une mobilisation massive et illimitée qui fait craindre de nouvelles violences. Le FNDC proclame le caractère pacifique de son action, mais dans un communiqué publié dans la nuit de samedi à dimanche, le gouvernement accuse une partie des leaders de l'opposition de chercher à plonger la Guinée dans le désordre. Depuis mi-octobre, le FNDC a fait descendre dans la rue à plusieurs reprises des dizaines ou des centaines de milliers de Guinéens. Cette contestation, plusieurs fois durement réprimée, a déjà causé la mort d'au moins 20 civils et un gendarme. Les défenseurs des droits humains dénoncent l'usage excessif de la force, des arrestations arbitraires et l'impunité des forces de sécurité. Avec des législatives prévues en février, une présidentielle et peut-être un référendum, la communauté internationale redoute l'escalade dans un pays à l'histoire tourmentée, coutumier des manifestations et des répressions brutales.
Conflit en Libye maintenant, un cessez-le-feu à l'initiative de la Turquie et de la Russie est entré en vigueur dimanche dans le pays après plus de 9 mois de combats aux portes de la capitale Tripoli. Ces violences ont suscité la crainte d'une internationalisation accrue du conflit. Jean-Roger Bonnion.
L'homme fort de l'Est de la Libye, le maréchal Khalifa Haftar, qui tente depuis avril sans succès de s'emparer de Tripoli, a proclamé ce cessez-le-feu peu avant son entrée en vigueur prévue à minuit. Son rival Fayez al-Sarraj, chef du gouvernement d'Union nationale, GNA, basé à Tripoli, a annoncé quelques heures plus tard qu'il acceptait lui aussi une cessation des hostilités, tout en soulignant le droit légitime de ses forces de riposter à toute attaque. La mission de l'ONU et la Ligue arabe se sont félicités de ces annonces, appelant les deux camps à respecter le cessez-le-feu et à relancer le processus politique. Dimanche, Ankara a estimé que les deux parties s'efforçaient de respecter la trêve, évoquant une situation calme dans un communiqué du ministère de la Défense. L'entrée en vigueur du cessez-le-feu intervient après un intense ballet diplomatique mené par la Turquie et la Russie, devenus des acteurs clés. Les présidents turcs Recep Tayyip Erdogan et russe Vladimir Poutine avaient pris l'initiative mercredi d'appeler les deux camps rivaux à cesser les hostilités.
Les deux rivaux libyens, le maréchal Khalifa Haftar et le chef du GNA Fayez al-Sarraj, sont attendus aujourd'hui à Moscou pour signer un accord sur les modalités du cessez-le-feu. Et pour terminer, en République démocratique du Congo, l'armée congolaise a reconnu la perte de 30 militaires dans sa toute dernière offensive contre les rebelles des forces démocratiques alliées ADF dans l'est du pays. Merci de votre attention. Plus d'infos sur notre site internet voafrique.com.
Personnel.